en plein cœur de Paris. Non loin de l'école militaire bâtie par le grand Gabriel sous le règne du soleil, deux jeunes hommes déambulent au milieu d'une foule immense. Ils marchent sur un sol chargé d'histoire. Ici, petits et grands événements qui ont fait la France se sont succédés depuis des siècles. Paramilitaires, première expérience d'aérostation, fête de la Fédération et remise des aigles au lendemain du couronnement d'un certain Napoléon Ier. Pas de doute. Les spectres du passé habitent les lieux autant que les vivants. Sous un soleil de plomb, alors que vivats et exclamations sont légion dans la ville lumière, une ombre gigantesque perturbe depuis quelque temps le regard de celles et ceux qui lèvent les yeux vers le ciel. Celle qui perturbe le paysage, c'est la Tour Eiffel, la Dame de Fer, celle par qui est né un insoluble scandale et qui confère déjà à l'Exposition universelle de 1889 une notoriété somme toute particulière. Robert Godet, 23 ans, est un journaliste et un critique musical suisse. Pourtant, c'est à Paris qu'il se sent véritablement chez lui, au cœur de cette effervescence unique. Sa soif de découvrir le monde sans mesure, il la partage avec son ami qui marche à ses côtés. Cet homme si particulier, au contact des pavillons de l'Exposition universelle de Paris, va se transformer. Il s'appelle Claude Debussy et il va révolutionner l'histoire de la musique. Ici, nous entrons par une porte dérobée, celle des loges, des salles de répétition, là où résonne encore le dernier accord d'un concerto ou d'un opéra. Le but de notre voyage, prendre la musique comme point de départ et laisser les notes nous conduire là où l'histoire, la grande, bascule. Grossièrement taillé, un costume un peu trop ample pour sa morphologie particulière, Claude Debussy ne passe pas inaperçu. Ils sont pourtant des milliers à déambuler autour du duo, qui n'a pas besoin de demander son chemin. C'est bien simple. Depuis que l'exposition a ouvert ses portes au public début mai, les amis s'y rendent presque quotidiennement. Il y a chez Debussy quelque chose d'irrépressible qui le pousse à venir ici. Il est habité par ce qu'il voit, ce qu'il découvre, et plus encore, par ce qu'il entend. Godet, l'un des seuls à comprendre la profondeur de l'art du musicien, le contemple d'un regard amusé. Aucun doute. Pour le compositeur, cette année s'annonce charnière. Bouillonne en lui une inspiration débordante qui s'impose à chaque instant. Si sur le champ de Mars, la toute nouvelle Dame de Fer occupe un espace colossal, d'autres constructions attirent regard et admiration. Non loin de l'œuvre d'Eiffel, la Galerie des Machines est un ouvrage sensationnel, dont l'ossature est aussi métallique. La modernité semble avoir banni la pierre, ce qui n'est pas du goût de tous. Les gouvernants du pays, qui souhaitaient célébrer le centenaire de la Révolution dans l'unité, ne doivent pas être déçus. Admirateurs ou détracteurs, les installations ont du moins le mérite de ne laisser personne indifférent. Il faut dire que le contexte économique et politique est on ne peut plus instable dans le pays. Cette exposition universelle, en somme, est le moyen pour les esprits de se libérer d'une pression devenue difficile à supporter. Rien de mieux pour cela que d'innover, tout en se rappelant l'importance de son passé glorieux. Ainsi, une réplique grandeur nature de la célèbre prison de la Bastille, symbole du 14 juillet 1789, est sorti de terre pour l'occasion. De son côté, le champ de Mars est la scène centrale de ce spectacle unique au monde qui dure plusieurs mois. Autour d'un jardin magnifiquement arboré, des constructions métalliques sont venues se greffer partout. Un mélange des genres, des esprits et des sensibilités qui fascine autant qu'il interpelle. Toutes ces polémiques, Debussy en est loin. Lui, ce qui l'attire inlassablement, ce sont les couleurs, les sons, les musiques. Chaque matin, il se dirige encore et toujours vers le même endroit de l'expo, l'esplanade des Invalides. Il y a là quelque chose de magique et de saisissant qui résonne en lui. Quelque chose qu'il n'explique pas. Enfin, pas encore du moins. Le journaliste le voit bien. Son ami est envoûté. D'un pas pressé, le duo passe le long de la galerie des machines sans trop y prêter attention. Ils sont bien allés seuls. Tous les autres visiteurs se sont arrêtés devant, les yeux écarquillés. Quel gigantisme! Quelle splendeur! Si la dame de fer est une des stars du moment, elle n'est clairement pas la seule. Tout en discutant de l'architecture novatrice des pavillons, les amis remontent maintenant l'allée centrale du plus grand bâtiment érigé par les concepteurs de l'événement. S'y meuvent différents espaces qui regorgent de richesses. Ici les bronzes, là les soieries, les cristaux, la bijouterie ou l'orfèvrerie. Rien n'est trop beau pour que les curieux en prennent plein la vue dans un contexte économique pourtant morose. Debussy, lui, ne s'arrête pas. Voilà qu'il file maintenant le long des pavillons de la ville de Paris. Face à lui, les jardins et plus encore, la tour Eiffel. C'est à peine s'il la regarde. Tout le contraire de son ami Godet qui, lui, tombe chaque fois en pamoison. D'un pas pressé, le musicien quitte le Champ de Mars pour cheminer vers le Dôme Doré. Y est installée la première exposition coloniale de l'histoire de France. Il y a au cœur de cet endroit, qu'on jugerait scandaleux aujourd'hui, ce que Debussy recherche avec ardeur. Dans une reconstitution fidèle d'un village javanais s'exprime ici toutes les subtilités d'un monde aux contours méconnus en Europe. Se joue ici une animation musicale à nul autre pareil. Elle est assurée par 4 danseuses. Elles sont accompagnées par des musiciens à l'instrument fascinant pour le compositeur, le gamelan. L'espace de quelques mois, l'esplanade des Invalides se transforme en véritable lieu de magie. Sous sa coupole dorée, Napoléon Ier semble devenir le souverain de Java, où on découvre un art plus que méconnu dans les cœurs et les esprits occidentaux. Langueur et secret sont les racines d'un numéro de danse qui entoure le cœur des visiteurs d'un mysticisme particulier. Debussy est subjugué. Depuis toujours admirateur d'autres musiques, le compositeur a cette fois l'impression d'entrer en contact avec une nouvelle réalité, celle qu'il cherche depuis tant d'années. Lui, l'immense fan de Wagner, qu'il a encore été écouté à Barot il y a quelques mois, se retrouve totalement désarçonné. Lorsque les danseuses de Java prennent une pause bien méritée, il entraîne son ami journaliste au cœur du théâtre Annamite. Là encore, les mêmes impressions, la même fascination. Ce soir-là, alors qu'ils y sont restés toute la journée et que le soleil commence doucement à décliner, le musicien est comme victime d'une révélation. En se retournant vers Godet, les yeux brûlants, il lâche soudain une bombe qui va révolutionner sa carrière. Robert, je crois que j'ai compris. En fait, pour exister, je dois rejeter Wagner. Encaisse l'info comme un uppercut. Déjà autour d'eux, la foule se disperse. Une fois la nuit venue, tout se passe du côté des palais, près de la tour imaginée par Eiffel. Il faut donc rebrousser chemin et suivre le mouvement. Debussy s'est relevé et attend son ami. Godet est estomaqué. Enfin, Claude, tu révères Wagner depuis toujours. L'autre hausse les épaules. Tout ça est terminé, c'est tout. Il a eu une illumination, de celle qui fait changer le cours des choses. Cette immersion totale et quotidienne au cœur de l'orientalisme a permis au musicien de découvrir pleinement la voie qu'il doit suivre. Pourtant, à son époque, cette admiration pour l'Orient n'est en rien quelque chose de novateur et d'original. Toutes les élites sont converties au symbolisme, alors qu'on découvre les richesses de l'Asie, notamment grâce à la colonisation de l'Indochine. Il n'empêche, le virage pris par l'artiste est énorme. Déjà sommeille dans sa tête un monde sonore totalement nouveau, loin des limites de la tonalité qui ne cesse de le contrarier. Voilà que s'ouvre pour lui un nouveau champ des possibles. Ce soir, sous la lueur naissante des lampadaires publics, Il lui semble absolument infini. Maintenant, le parcours en direction du cœur de l'expo. L'ambiance y est toujours exquise. Ils pourront croiser peut-être des connaissances du monde de la musique ou des arts. Ils ne se trompent pas. Sur une table d'un café animé, voilà qu'ils sont appelés par des voix familières. Le compositeur Charles Gounod et l'écrivain Guy de Maupassant sont attablés, occupés à disserter de manière vive. Robert Godet, dans un sourire, comprend bien le manège qui est en train de se jouer entre les deux artistes. L'écrivain grandiloquent s'est mis dos à la Tour Eiffel. Depuis les projets préparatoires, il est l'un de ses plus gros opposants. Son aversion pour l'œuvre de l'ingénieur tourne même à l'obsession, tant et si bien que lorsqu'il accepte de se rendre sur le site de l'expo, il refuse de regarder en face ce monstre de fer qu'il exècre. La mine de l'auteur reste sombre lorsqu'il aperçoit le musicien. Et il faut dire que Debussy n'a pas marqué son opposition au projet. Il est resté neutre face à la polémique. Tel un défi, l'écrivain de Bel Ami s'adresse au nouveau venu. Alors vous pouvez me croire, mes amis, la présence de cette chose dans le paysage sera bientôt de l'histoire ancienne. Sitôt l'exposition universelle terminée, cet effet viendra la démonter lui-même. Tout en ajoutant une remarque qui fait hausser les sourcils. Je le sais de source sûre, Garnier va obtenir gain de cause. La dame de fer, menacée. En voilà un scoop, pense le journaliste suisse qui suit cette affaire depuis le début. Le monde artistique et culturel français se déchire à ce sujet depuis des années. Et vous pouvez me croire, ça n'est pas prêt de se calmer. Début d'année 1887, Paris. En plein cœur de la capitale, un jeune homme, des idées plein la tête, marche d'un pas décidé. Il est attendu dans l'un des nombreux salons littéraires des grandes familles parisiennes. Claude Debussy est un des grands espoirs de la musique au Pays des Lumières. Léopold Stevens, peintre, affichiste, homme des arts à la carrière impressionnante, aime s'entourer des esprits les plus prometteurs. Chaque semaine, il les réunit chez lui. Les opinions s'y expriment, on y échange idées et projets dans une effervescence de l'esprit. On ne peut plus vivre en cette fin du 19e siècle en France. La Troisième République n'est encore qu'à ses balbutiements. Le Second Empire, l'ombre de Napoléon III et celle du baron Haussmann ne sont pas si loin. Celle de la Commune non plus. Le pouvoir républicain est toujours fragile et un vent d'incertitude plane dans l'air. L'économie connaît un net ralentissement et les questions autour de la pérennité du régime sont légion. Debussy, lui, rentre de plusieurs années passées à Rome. En tant que lauréat d'un prix prestigieux, il a eu la chance d'obtenir un poste à la célèbre Villa Médicis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme bat des records de précocité, sans pour autant avoir signé son premier succès populaire. Il se cherche encore. Sa période romaine ne lui a pas permis de composer ce qu'il voulait. 4 pièces seulement, rejetées d'un revers de main par son employeur, le très exigeant conservatoire. Déjà, Debussy apparaît comme bizarre. Ses rencontres sur place avec Verdi et Liszt, inspirantes, n'ont pas débouché sur quelque chose de concret. Bien des déceptions qu'il n'a pas digérées et qui ont abouti à sa démission au bout de 2 petites années de présence dans la cité romaine. Son retour à Paris doit lui permettre de rebondir. Dans le salon du peintre, il a rencontré des amis, des sources d'inspiration, tout en se tenant informé des dernières évolutions sociétales et politiques. Le sujet du jour, alors que l'alcool coule à flot et que les rires plus ou moins gras émaillent l'assistance, le centenaire de la Révolution française et les préparations de la 4e exposition universelle de Paris, qui doit démarrer en 1889. Il y a là des artistes, des auteurs, des architectes. Toute la bonne société est présente dans ces salons et ces espaces de rencontre. Et celui de la famille Stevens est l'un des lieux où il vaut mieux être vu. Discret, le jeune compositeur échange avec une femme de la haute bourgeoisie parisienne lorsqu'il entend derrière lui une conversation qui s'échauffe. Comment ? Une tour de 300 mètres de haut sur le champ de Mars ? Et enfer, qui plus est. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est lui qui s'offusque et attire l'attention de tous par la même occasion. C'est Charles Garnier, le même qui fut le concepteur du palais qui porte son nom. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand architecte français de son temps. Pourtant, voilà qu'il semble dépassé par ce qu'il se passe. Tout en continuant sa conversation charmante avec son interlocutrice, le jeune Debussy tend une oreille. C'est un ancien collaborateur d'Haussmann, Adolphe Alphand, qui a été chargé par l'État de diriger la conception et la préparation de l'expo. Il n'a pas le droit à l'erreur. Pourtant, voilà que ses premiers ennemis pointent le bout de leur nez avant même le début des travaux. Le principal point de crispation, une tour, que l'équipe de direction de l'exposition universelle veut voir s'installer en plein cœur du champ de Mars. Sa particularité ? Elle devra être haute de plusieurs centaines de mètres. De quoi assurément provoquer bien des rejets dans l'opinion. Assez pour empêcher le projet complètement fou d'aboutir. En quittant la soirée, Debussy se pose sérieusement la question. Et il n'est pas le seul. Se lancer dans l'aventure de l'exposition universelle de 1889, la ville de Paris n'est pas à son coup d'essai. Elle a déjà organisé précédemment 3 éditions de l'événement, marquant chaque fois considérablement l'opinion. Il n'empêche. Dans le cas présent, le contexte est particulier. Si l'expo doit avoir pour but de mettre en avant les progrès gigantesques réalisé depuis l'aventure de la Révolution industrielle, c'est aussi un anniversaire fondateur pour la France, et plus encore, pour sa jeune Troisième République en quête de stabilisation. En 1889, le pays des Lumières va célébrer le centenaire de sa première révolution. En un siècle, le condensé des rebondissements et des grands moments historiques vécus par la nation de Rousseau est absolument ahurissant. Éclatement de la monarchie incarnée par les Bourbons. Première République, avènement de Napoléon Ier et de son empire. Révolution, Napoléon III, la Commune et enfin la Troisième République. Jamais le pays n'a connu une instabilité pareille dans son histoire. Et la France, pour ne pas changer, fait en ce sens figure d'exception en Europe. Autant dire que lorsque le comité organisateur annonce aux pays du monde sa volonté de célébrer via l'Expo universelle le centenaire de la Révolution, les levées de boucliers sont plurielles. Et pour cause. Certaines monarchies sont encore aux affaires au sein de certains grands pays européens. C'est notamment le cas de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Pour la première cité, le malaise est double. Il n'y a pas encore 20 ans que la guerre franco-prussienne a entraîné la chute du Second Empire. Et plus encore, le rattachement de l'Alsace-Moselle au tout nouveau territoire unifié allemand. Sans surprise donc, certaines nations décident de boycotter purement et simplement l'événement. Ah, la liste est longue, mais la plupart de ces nations vont tout de même soutenir des initiatives privées, afin d'être représentées officieusement à Paris. Une exposition universelle au 19e siècle, c'est le gage d'obtenir une visibilité non négligeable. On peut y présenter ses avancées technologiques ou sa supériorité sur l'un ou l'autre domaine. C'est Adolphe Alphand, ingénieur à la ville de Paris très réputé, qui hérite de la charge d'organiser un événement qui s'annonce unique. Le lieu choisi, lui, fait consensus. On alloue à l'expo une zone de 96 hectares au cœur de Paris. Le Champ de Mars et le Trocadéro vont accueillir les arts et l'industrie, alors que l'esplanade des Invalides est réservée aux innovations guerrières et l'exposition coloniale. Cette zone abrite notamment un zoo humain. Oui, vous avez bien entendu. Un zoo humain où des innocents venus des quatre coins du globe sont entassés dans des enclos comme des animaux. D'un point de vue architectural, la majorité des projets entraîne admiration et approbation collective. La galerie des machines, le plus beau des pavillons, va devenir la plus imposante structure métallique de ce type en Europe. Sa nef centrale est démentielle, mesurant plus de 110 mètres de large par 420 de long. Une véritable cathédrale des temps modernes. Son concepteur, Victor Contamin, devient une star. Du côté de l'art et de l'industrie, l'accent est plutôt mis sur l'art nouveau, un style architectural et décoratif qui s'impose de plus en plus dans le paysage. Le Palais des Industries, imaginé par Bouvard, dispose d'un dôme dont la particularité et l'innovation résident dans le fait d'être le premier à utiliser l'électricité à grande échelle. Buffalo Bill et son Wild West Show sont programmés, tout comme des ballons captifs à hydrogène. Ils vont permettre aux visiteurs de prendre de la hauteur. Une reconstitution de la prison de la Bastille est également réalisée dans le cadre des célébrations du centenaire. On va même mettre en service une ligne de chemin de fer provisoire. Preuve du succès à venir, ce train va faire transiter en l'espace de quelques mois plus de 6 millions de voyageurs payants. Du délire. Non, assurément, il n'y a qu'un projet qui, dès ses balbutiements, attire sur lui des attentions multiples. Celui d'une tour, imaginée par l'organisation et qui doit s'imposer dans le paysage parisien. Le but ? Trouver la meilleure innovation architecturale qui va permettre de se hisser sans crainte à plus de 300 mètres.